1993 à Rimont par le père Philippe. 15e conférence.
Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Continuer un peu cette recherche dans la lumière de ce que dit Thomas d'Aquin au point de vue de la convenance de l'incarnation liée à la rédemption. Puisque de fait, c'est cela que l'Esprit Saint nous indique à travers toute l'Écriture. Il s'agit maintenant d'essayer de comprendre pourquoi, de fait, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que là, on peut dire que c'est vraiment la très sainte Trinité, c'est pas Dieu créateur. Donc c'est vraiment le mystère de la très sainte Trinité, dans un conseil très particulier, puisqu'ils sont un. Décide que le mystère de la rédemption de l'humanité, des hommes pécheurs, et tout spécialement du premier péché, avec toutes ses conséquences, et de pouvoir nous-mêmes ajouter ce salut tout à fait particulier du mystère de la croix à l'égard de Marie, l'Immaculée Conception. C'est Père Maximilien Kolb qui avait un tel amour pour Marie qui au moment de sa première messe après peu de temps après son ordination a voulu aller à Lourdes et là il a eu comme une sorte d'intuition divine, d'expérience intérieur de ce que la petite Bernadette avait reçu de la Vierge Marie. Et il dit lui-même que cette révélation du mystère de l'Immaculée Conception donne à toute la théologie belle lumière. Alors, vous voyez, c'est là, parce qu'on me posait la question tout à l'heure, quelle différence y a-t-il entre la théologie scientifique et la théologie mystique? J'en ai pas parlé jusque maintenant, hein, mais nous en parlerons, ne vous inquiétez pas. Parce que je crois que c'est très important, pour des quantités de raisons. C'est là où on voit comment, dans une perspective de théologie mystique, on peut dire que la révélation que l'Église nous donne sur le mystère de l'Immaculée Conception va nous permettre de mieux comprendre le mystère de la rédemption. C'est normal de mieux comprendre, de mieux pénétrer et, au plan théologique, de préciser combien le mystère de la rédemption est avant tout un mystère d'amour. En théologie scientifique, nous allons essayer de préciser comment, de fait, Dieu veut nous pardonner, nous sauver, à la fois en nous faisant comprendre la gravité du péché et la toute-puissance de sa miséricorde. La miséricorde et la justice se sont embrassées à la croix. Ces paroles que notre pape aime beaucoup de répéter. Et c'est vrai, il y a les deux aspects. En théologie scientifique, une des points de la théologie scientifique, c'est le mystère de la satisfaction. Ça, c'est net. En théologie mystique, l'aspect ultime, c'est que la croix est la grande manifestation d'amour, l'épiphanie de l'amour. Et ceci, tout spécialement dans le mystère de la croix liée au mystère de la compassion. Autrement dit, comprendre comment à la croix, il y a cette manifestation du mystère de la très sainte Trinité s'emparant de l'humanité. Je crois qu'il y a deux grandes icônes de la très sainte Trinité. La première à Abraham et la seconde à la croix. Vous allez comprendre. Abraham, on connaît l'icône des trois jeunes gens. Et il y a une sainte mode qui s'établit de voir cette icône constamment, qui est très belle du reste. On la répète sous des formes différentes. Les trois jeunes gens, alors qu'Abraham fait la méridienne. C'est pas faire la méridienne qui nous permet de découvrir la très sainte Trinité, normalement. Mais là, c'est le fait. Sarah est à la cuisine, comme il se doit. Et Abraham, comme il se doit, se repose. Et la très sainte Trinité se dérange pour Monseigneur Abraham. C'est magnifique, ça. C'est vrai, les trois. Ils sont un. Et je crois qu'on peut dire, dans une perspective de théologie mystique, qu'à la croix, c'est la grande manifestation de Dieu amour, trine, et nous sauvant. Le mystère du salut, de la rédemption, nous fait entrer dans le mystère de la très sainte Trinité. Et vous avez Jésus, donc l'humanité du Christ, visible. Jésus dit à Philippe, l'apôtre, Philippe, qui me voit, voit le Père. C'est quand même intéressant, ça. Et ça, avec force, dans l'évangile de Jean, juste avant la croix. C'est vraiment à la croix où Jésus nous révèle la paternité. Dans le sens le plus merveilleux. La paternité est source de vie, de lumière et d'amour. C'est ça, Dieu le Père. Et la paternité comme paternité est au-delà de toute autorité. Et Jésus, à la croix, nous révèle le mystère de la paternité. Il est dit, du reste, dans l'évangile de Jean, que toute autorité lui a été donnée, tout pouvoir lui a été donné par le Père. Marie est le fruit le plus merveilleux reçoit tout et celui qui donne tout dans la très sainte Trinité. Il est le pain du Père. Le Père donne le pain. C'est à la croix qu'on comprend ce symbolisme du pain. Si on a le temps, on le verra, parce que ça fait partie du mystère de la rédemption. Et Jean, dans l'Église. Mais c'est en vivant très fort l'Évangile de Jean qu'on voit que l'ultime révélation, c'est bien Jésus crucifié et le coup de lance. C'est bien Marie dans son mystère de compassion. Et c'est bien Jésus lui-même qui nous révèle en disant à Marie, « Femme, voilà ton fils, et à Jean, voilà ta mère. » Qui nous révèle comment Jean est le fruit commun de la rédemption du Christ et de la compassion de Marie. Alors, évidemment, icône, comprenez bien, avec tout le décalage que représente le passage de la très sainte Trinité à la réalité. La révélation de la très sainte Trinité, première à Abraham, a l'immense avantage que tout est symbolique. C'est vrai. Parce que ces trois jeunes gens, où est-ce qu'ils étaient ? C'est une incarnation au niveau de la représentation symbolique. Tandis que, à la croix, c'est une icône véritable, image et représentation, et image et ressemblance. C'est le mystère de la très sainte Trinité qui est source de toute l'Église par la croix du Christ. C'est pour ça que l'Église est à la fois l'Église du Verbe incarné et du Sauveur, et elle est l'Église de la très sainte Trinité. Et je crois que pour nous, c'est très important de regarder attentivement cela. Vous voyez, c'est cela que nous devons tout le temps regarder. Au-delà de la satisfaction, il y a la manifestation de l'amour. Et la manifestation de l'amour enveloppe tout le mystère de la satisfaction. Il y a eu dans l'Église des spiritualités qui insistaient tellement sur la satisfaction qu'on ne voyait plus dans le mystère de la croix que l'aspect de la justice. Port-Royal. Vous savez, c'est Christ qu'on représente au XVIIe siècle avec Port-Royal. Les bras presque dans le sens du corps. Et tout le monde disait, c'est l'aspect de la justice. Je crois que c'est très important, cela. Il y a eu, de fait, un abus de ne voir dans le mystère de la croix que la justice de Dieu. Et par le fait même, on a refusé le mystère de la compassion et le mystère de la coopération de Marie. Si le mystère de la croix est premièrement un mystère de justice et avant tout un mystère de justice, vous ne pouvez plus comprendre au plan théologique comment Marie achève ce qui manque à la passion du Christ. Comprenez bien, je prends les paroles de saint Paul. Il ne manque rien à la passion du Christ. Quand je dis achève, c'est le rayonnement. C'est comme le fruit. Le fruit achève tout. L'amour est au point de départ de la fécondité. Il y a le fruit de la fécondité. Et tout s'achève dans le fruit. Et Marie est le fruit par excellence de la croix. Et en même temps, Marie, en coopérant, donne cette complémentarité. Comprenez bien qu'au niveau de la justice, on ne peut absolument pas comprendre une complémentarité et un achèvement. La justice réclame quelque chose de strict. C'est très simple à comprendre. Quand vous payez vos impôts, ça arrive, vous essayez de payer le strict. Et vous n'hésitez pas à consulter quelqu'un qui vous permettra de payer un peu moins sans qu'on puisse vous attraper. Et vous avez raison. Question de justice. Tant. Quand il s'agit d'amour, l'amour réclame la surabondance dans la complémentarité. Jamais dans l'amour, vous chercherez ce qui est strict. Je t'aimerai une heure, je serai assez. Après, tu me laisseras la paix. En justice, vous pouvez dire ça, au sens strict. Donnant, c'est convenu, je travaille une heure pour toi, et puis je recevrai le salaire. Et c'est normal. Si je mets la montre pour la conférence, c'est pas parce que c'est une œuvre de justice. C'est pour pas déborder, n'est-ce pas? Parce que celui qui écoute là, de temps en temps oublié. Alors, l'amour réclame la surabondance. Toujours. Alors vous comprenez que si le mystère de la croix est avant tout un mystère de justice, la place de Marie est inutile. Et Marie ne serait pas au pied de la croix. C'est pour ça que j'aime beaucoup, selon l'évangile de Jean, puisque c'est vraiment ce qu'il y a d'ultime dans l'évangile de Jean. Jean regarde la croix autrement, pas diversement, en opposition dialectique, mais en ajoutant quelque chose que les autres n'ont pas dit. Il a montré Jésus, Marie, Jean. Et c'est Jésus lui-même qui nous indique l'unité. C'est ça qui est si extraordinaire. Pour qu'on fasse attention, c'est quand même important cette parole de Jésus à Marie. Pour qu'on comprenne qu'il y a cette surabondance qui dépasse tout point de vue. Alors vous voyez, la théologie mystique regarde la surabondance. Parce que la surabondance dépasse toute intelligibilité. C'est le point de vue de l'amour. Et c'est pour ça, saint Thomas le dit avec force, nous n'avons pas de mots pour exprimer l'amour. On doit toujours tourner autour. C'est pas exprimé. La justice, ça va très bien. Les hommes de loi sont là. Et ils arrivent à être extrêmement précis. Dès que l'amour, non. Parce que l'amour dépasse l'intelligibilité qu'on a de l'amour. Et on le sait. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », vous savez bien que ça ne signifie rien. Et ça signifie quelque chose. On doit le dire. Mais on sait très bien que l'amour, ce n'est pas dans la parole que je dis « je t'aime ». Il n'y a que Dieu qui peut dire « crois en mon amour ». Au point de vue humain, vous n'avez jamais le droit de dire à quelqu'un « crois que je t'aime ». Vous devez le montrer par vos actes, par votre vie, par vos gestes, par votre attitude. L'amour se prouve. Il y a un témoignage de l'amour. Au sens très très fort. On témoigne qu'on aime quelqu'un. On vit avec lui ce qu'il vit. C'est ça être témoin. La différence différence entre le témoin et le spectateur. Hein. Faut pas oublier ça. Le spectateur, il comprend, il croit comprendre, et puis il n'ajoute rien du tout. Le témoin vit de ce qu'il voit. Et son témoignage s'ajoute. C'est la surabondance de l'amour. Alors, essayons de pénétrer un peu cela. Oui, je montre exprès, parce que c'est intéressant de voir au point de vue de la Bible et au point de vue de l'Écriture ces deux extrêmes, ces deux grands moments. C'est vrai, c'est les deux grands moments d'une révélation, d'une fécondité surabondante, et donc dans un amour surabondant. Tu as attendu qu'Abraham soit un vieillard, que Sarah soit une vieille femme, pas très commode, pour donner cette révélation étonnante du petit Isaac. Et cette révélation de la très sainte Trinité révèle que Dieu vient être sauveur de son peuple. Et voyez que cette révélation se fait par le point de vue de l'amour surabondant et de la fécondité. On annonce la naissance d'Isaac. Naissance qui, humainement parlant, ne devrait pas arriver. Naissance miraculeuse donnée à Dieu. C'est quand même curieux, vous voyez, de voir que le mystère de la croix s'annonce par une naissance. Mystère de fécondité. Et c'est vrai, le mystère de la rédemption est un mystère de naissance. Le mystère de fécondité. Et c'est pour ça que l'ultime regard que nous devons avoir sur le Christ crucifié, c'est lui-même qui nous le dit. Ce sera l'évangile de demain. On l'a déjà lu ce soir. Et c'est net, c'est la prière sacerdotale du Christ. Père, l'heure est venue. Il ne s'agit plus de parler en parabole. Il s'agit de montrer la réalité. Glorifie ton Fils pour que ton Fils se glorifie. Donc le mystère de la croix est un mystère de glorification. La satisfaction n'est pas un mystère de glorification. Tandis que là, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Le mystère de la croix, donc le mystère de la rédemption, est un mystère de glorification. Glorification du Christ et glorification du Père. Et glorification de toute l'Église, et donc de nous. Alors, qu'est-ce que veut dire glorifier? C'est pas commode à découvrir. Hein. Or, le terme glorifier, c'est un leitmotiv de toute l'Écriture. Vous savez que saint Augustin nous dit qu'il faut découvrir les leitmotifs de l'Écriture. Parce que l'Écriture, pour lui, c'est une grande musique de l'Esprit-Saint. Il dit ça. Saint Augustin aimait beaucoup l'art. Il a fait un traité des musica pour comprendre l'Écriture. C'est pas si mal, hein. Parce que dans l'Écriture, il y a des leitmotifs qui reviennent. Et celui de la gloire se transmet à travers toute l'Écriture. Et c'est la dernière vision de la croix donnée par Jésus. C'est étonnant, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire? Au point de vue humain, on sait très bien ce que c'est que la gloire. c'est les autres qui vous glorifient et qui parlent bien de vous et qui parlent beaucoup de vous et qui montrent les choses étonnantes. Qu'est-ce qu'on glorifie surtout ? On glorifie un chef d'État qui sauve son pays. Un chef d'armée qui glorifie son pays, qui sauve son pays. C'est curieux que la gloire est liée à une victoire, à un fait étonnant, héroïque. Alors pour Dieu, je crois qu'on peut dire que la gloire, c'est la manifestation de la victoire de l'amour. Je crois que c'est la meilleure façon de regarder ce que c'est que la gloire, au point de vue théologique. Et au plan théologie mystique, c'est capital. La théologie mystique, elle est sous le signe de la gloire. Puisque c'est la victoire de l'amour qu'on manifeste, qu'on essaie d'exprimer. C'est pour ça qu'en théologie mystique, dans son amour, à l'égard du péché, de la mort, de toutes les souffrances et de l'adversaire, le démon. C'est la grande victoire de l'amour, la croix. Et c'est pour cela que c'est la glorification du cœur du Christ. Et cette glorification est voilée. Et j'allais dire, pour que cette gloire soit parfaite, il fallait qu'elle soit voilée. Pour bien faire comprendre que c'est la gloire du Fils qui est pour le Père. En premier lieu, c'est une gloire divine, à l'intérieur même du mystère de Dieu. Et cette gloire est voilée par le point de vue des souffrances du Christ crucifié et de la mort. Et donc, cette gloire est totalement voilée, parce qu'elle est pour Dieu. C'est le Fils qui glorifie le Père. Et pour que cette gloire soit tout à fait pure, il fallait qu'elle soit voilée, pour qu'elle ne soit que pour Dieu. C'est la manière dont Jésus, dont le Fils bien-aimé du Père se sert du démon. Le démon croit qu'il est victorieux à la croix. En réalité, c'est la grande victoire de l'amour. Et cette victoire de l'amour va se manifester dans le mystère de la résurrection. Mais entre la croix et la résurrection, je vous ai dit, il y a un ordre de nécessité. Et quand je dis qu'il y a un ordre de nécessité, c'est donc le même mystère de victoire de l'amour qui est vécu à la croix et dans la résurrection. Et c'est ça qui est étonnant. Et le mystère de la rédemption, c'est la croix glorieuse. C'est la croix et la gloire. Et c'est un mystère de glorification, c'est-à-dire de victoire de l'amour. Et c'est ça qui est premier, qui est ultime. Et cette glorification, cette victoire de l'amour, se fait à travers une satisfaction. essayant de comprendre pourquoi Dieu dans sa sagesse, la très sainte Trinité dans sa sagesse, a voulu que le mystère du salut des hommes se fasse par la croix. C'est une volonté expresse de Dieu et du Père. Et saint Jean le souligne. Jésus vit le mystère de la croix dans l'obéissance. C'est l'obéissance du Fils bien-aimé à l'égard de son Père. C'est une super obéissance. Parce que c'est une obéissance dans un amour substantiel. Dans une plénitude d'amour. Mais c'est dans l'obéissance. Donc c'est bien la volonté expresse du Père. Je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Rappelez-vous ces paroles de Jésus à Marie qui lui dit: pourquoi nous as-tu fait cela? Cinquième mystère joyeux. Et Jésus répond: pourquoi me cherchez-vous? C'est deux pourquoi qui fait que on donne une réponse en donnant un pourquoi. Ce qui est assez curieux, c'est le dialogue de l'amour, ça. Et c'est le propre du dialogue de l'amour. Parce qu'on demande un pourquoi, l'autre envoie son pourquoi. Pour que tous les deux soient un. Et Jésus dit: ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? À la croix, il est tout entier aux affaires du Père. C'est pour ça, celui qui le voit, voit le Père. Le Père veut à la fois que le mystère de la rédemption manifeste aux hommes de la manière la plus forte la gravité du péché et manifeste aux hommes de la manière la plus nette, la plus éloquente son infinie miséricorde pour les hommes. Son amour unique pour les hommes. Il faut que les deux s'unissent. Et les deux sont unis dans le mystère de la croix. C'est très étonnant. On comprend très bien comment Hegel regarde le mystère de la croix d'une façon dialectique. Parce que la croix unit des contraires. Ce qui est dit dans l'Écriture, la justice et l'amour se sont embrassés. Vous voyez ? De façon étonnante. Il y a l'union qui s'est faite et l'unité qui s'est faite. Pour manifester la gravité du péché, le Père demande à son Fils d'être comme l'agneau immolé qui porte l'iniquité du monde, d'être comme le bouc émissaire qui porte la responsabilité du peuple, la responsabilité de ses fautes. Pour montrer que le péché est une rupture à l'égard de l'amour de Dieu. Il faut qu'il soit manifesté à travers la mort. La mort étant une rupture substantielle. Et la seule rupture substantielle puis constater, expérimenter. Il n'y a pas d'autre rupture substantielle. Et la mort de celui qu'on aime le plus, le Fils bien-aimé. Dieu ne peut pas mourir. Et par l'incarnation, Dieu peut, à travers la nature humaine qu'il a assumée, mourir. Il meurt dans l'humanité assumée, qui est une avec lui, puisque c'est une unité substantielle, une unité hypostatique, c'est-à-dire personnelle. C'est dans le Verbe de Dieu que les deux natures divines et humaines sont unies. Le mystère de la satisfaction à l'égard du péché, à l'égard de l'orgueil, puisqu'au fond, le premier péché, c'est l'orgueil, et on peut dire que toute faute grave se ramène toujours à l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le péché spirituel. C'est la créature qui refuse d'adorer. C'est la créature qui refuse de se courber en face de Dieu, de laisser passer devant Dieu, qui refuse la volonté de Dieu d'accomplir cette volonté. Il y a un symbolisme magnifique dans l'Apocalypse sur ce qu'est l'adoration. Des 24 vieillards se prosternent devant Dieu en jetant leur couronne. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous d'adorer. Parce qu'on aime bien de garder sa couronne. La couronne, vous voyez, ce que c'est, notre petite dignité. Ce qu'on a découvert nous-mêmes. Notre petite personnalité. Adorer consiste à jeter sa couronne face de Dieu. Parce que celui qui adore, c'est celui qui reconnaît qu'il est une créature totalement dépendante de Dieu dans son être. C'est pour ça qu'au sens strict, vous voyez, il faut bien comprendre ça. Le savant, comme savant, n'adore pas. C'est l'homme qui reconnaît qu'il est une créature qui adore. Et très souvent, on passe sa vie sans adorer. Parce qu'on ne voit pas ce que c'est que l'adoration. Jusqu'où ça va? Reconnaître que nous ne sommes rien en face de Dieu. Et que Dieu peut tout nous demander. Parce que nous sommes entre ses mains. Que nous avons été créés par amour et que nous devons remonter vers Dieu par amour en adorant. L'acte d'adoration est un acte d'amour. C'est l'acte d'amour le plus fondamental, l'acte d'amour premier. L'acte d'amour dans lequel on reconnaît notre totale dépendance à l'égard de Dieu. Il s'agit de réparer la faute initiale d'orgueil. Il s'agit de réparer la faute de celui qui était prince de l'humanité, Adam, et créé comme chef de l'humanité. Responsable de toute l'humanité en face de Dieu. C'était son privilège. s'agit de réparer cette faute capitale d'orgueil, dont les conséquences atteignent toute la descendance d'Adam. C'est parce qu'il est chef, quand nous péchons, nous, quand un père de famille pêche, heureusement que les enfants ne sont pas abîmés par cela. Tandis qu'Adam, père de l'humanité, comme chef de l'humanité, comme responsable de toute l'humanité, il y a ce lien avec lui qui fait la conséquence du premier péché d'orgueil. L'orgueil touche la gloire de Dieu, le rayonnement de Dieu. Le péché ne touche pas ce qu'est Dieu en lui-même, mais touche Dieu dans sa gloire, dans son influence, dans son attraction de Père sur nous. Il nous attire vers lui, et le péché arrête cette attraction. C'est pour ça qu'il blesse profondément Dieu comme Dieu, comme Créateur, comme Père. Qu'est-ce qui blesse le plus le Père? C'est quand l'enfant considère que ce que dit le Père n'a aucune valeur, aucune signification. C'est mépriser le Père comme Père. Et le péché, c'est le mépris du Père comme Père. Le péché d'orgueil. Vous voyez, ça ne touche pas Dieu dans son mystère, mais Dieu dans son rayonnement de Père. Et Dieu, créant des esprits, savait que ces esprits étaient libres. Il est créé libre et qu'il pouvait s'opposer à sa paternité. Et s'opposant à sa paternité, il blessait Dieu dans sa plus grande vulnérabilité. Voyez, quand on aime quelqu'un, on devient vulnérable à son égard. Quand quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas nous lance des injures, ça ne nous touche pas beaucoup. On presse le pas pour ne plus les entendre. Et puis c'est tout. Et on a complètement oublié au bout de 3 minutes. Quand un ami, dans une colère, parce que on a manqué un tout petit peu de déférence vis-à-vis de lui, nous lance des injures, ou il a cru qu'on l'avait oublié, nous lance des injures, ça nous blesse dans notre cœur d'amis. Parce que quand on aime, on est vulnérable. Oui, je crois qu'on peut parler de la vulnérabilité de Dieu. C'est vrai que Dieu n'est pas blessé comme nous sommes blessés. Mais Dieu, étant d'amour, a une vulnérabilité infinie. Il y a en Dieu cette vulnérabilité propre à celui qui aime. Et en tant que Père, la créature qui refuse cette paternité, qui refuse de reconnaître la grandeur de ce qu'il nous demande de ce qu'il réclame de nous en vue d'une coopération amoureuse et aimante. Ça blesse le Père. Pour réparer cette blessure à l'égard de la paternité. Seul le Fils peut réparer la blessure à l'égard de la paternité. Il faut qu'il répare en manifestant aux hommes la grossièreté.